métro et 5 nouvelles stations. Joël Brunner, Thessalonique, RFI.
RFI, bientôt 9h10, à Paris 8h10, en temps universel. Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
Je voudrais choisir un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
A mí, ya ves que venero tu imagen divina.
Amis auditeurs, bonjour. On connaît essentiellement Olivia Ruiz pour ses chansons, mais la jeune femme d'origine espagnole s'est aussi penchée sur l'histoire de sa famille qui a fui le franquisme sans jamais en parler. Elle a exploité ce silence pour écrire son premier roman, La commode au tiroir de couleurs, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. À la mort de sa grand-mère, une jeune femme ouvre les tiroirs de sa commode, celle-là même qu'enfant elle convoitait, et voit ainsi se dérouler la vie de sa grand-mère et des femmes de sa famille sur 4 générations de la dictature franquiste à nos jours.
Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida.
On a poussé les meubles et danser toute la nuit dans un bain de larmes avec papy. Ça nous a fait du bien. Ma fille Nina s'est réveillée et s'y est mise aussi. On avait déjà réussi à lui refiler le virus. Je n'avais pas envie de laisser papy ce midi. Il n'a plus rien, lui, maintenant que ma grand-mère est partie. J'arrive à pied, en haut de la butte, haletante, mon sac sous un bras et ma fille endormie dans l'autre. Épuisée par mon chagrin, j'ai soudain la sensation d'être ma grand-mère, 80 ans plus tôt, gravissant les Pyrénées, grelottante, perdue, amputée. Elle de sa terre, moi de sa présence désormais. Tant de gens sont venus saluer sa mémoire, ni mon grand-père ni moi ne connaissions la moitié de l'assistance. Elle a dû emporter des secrets dans sa tombe, la canaille. Nous sommes sentis plus fiers encore d'avoir occupé les 2 premières places dans son cœur. J'ouvre la porte de mon appartement, allume la lumière, et elle est là, la commode, chez moi, au milieu du salon, et de la cuisine d'ailleurs. Elle sera restée magique même après son départ, ma grand-mère. Cette pensée me fait sourire et pleurer. Puis réaliser. Que vais-je faire de cette foutue commode? 30 mètres carrés, c'est confortable pour Nina et moi, mais 30 mètres carrés à partager avec la commode, ça va devenir compliqué. Quand l'énigmatique objet de notre convoitise est arrivé dans la maison de ma grand-mère, j'avais 4 ans. Cet événement est si frais dans ma tête que j'ai l'impression qu'il date d'il y a moins d'une heure. Avec mes cousins, on s'est enfiévré 1000 fois en tentant de fourrer le nez dans cette commode, attirée comme des aimants à bêtises par l'arc-en-ciel de tiroirs. Les petites clés sur chacun d'eux qui suppliaient d'être tournées, le métal doré qui renforçait les angles pour nous les rendre plus inaccessibles encore. Mais à chaque fois, notre mamie a poussé un de ces cris suraigus, radicalement dissuasifs, dont elle seule avait le secret. Et nous, nous avons pris la poudre d'escampette en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. Ces essais loupés finissaient souvent par de grands conciliabules familiaux, durant lesquels notre jeune génération imaginait une mamie-éthologie invraisemblable. Et si le tiroir jaune contenait une photo de moi et de ma sœur siamoise, qui, elle, serait morte le jour de l'opération pour nous séparer? Ça expliquerait ma cicatrice sur le crâne. Mon petit cousin Maxime avait sa théorie sur le tiroir bleu. Je crois que le secret que l'abuela cache là-dedans, c'est que je suis le frère de notre cousin Yannick. Ça me travaille, je ressemble beaucoup plus qu'à toi. Comme maman a eu des complications le jour de ta naissance, elle a dû devenir stérile et on m'a offert à elle pour la consoler. Mais nos questions sur la commode demeuraient sans réponse. Enfant, je jouais de ma position de favorite pour que l'abuela me dévoile le précieux trésor. Elle m'appelait si fièrement mon tournesol. Mais rien n'y faisait. Ma grand-mère, depuis toujours, c'est elle qui décide, elle qui nous mate. Elle est comme sa cuisine. D'abord, elle te tente irrésistiblement, te surprend, puis te violente de son tempérament épicé. Quand le repas est terminé, pourtant, c'est une saveur suave qui te reste dans la bouche, rassurante parce qu'elle te donne l'impression d'être aimée passionnément. J'ai tellement attendu ce moment que je risque de mourir après l'avoir vécu. Enfin, après tant d'années d'impatience domptée, je vais savoir pourquoi elle s'emballait à ce point pour cacher le secret que renfermaient ces 10 tiroirs. Ma grand-mère les nommait ses renfermes mémoires. J'ai couché ma fille. Elle lui ressemble tellement. J'espère que je serai une aussi bonne maman qu'elle le fut pour moi. J'ai mis un vinyle d'Ennio Morricone. Abuela. Personne ne l'a jamais appelée autrement. Avec ses yeux noirs et sa peau tannée, ça lui allait bien. L'abuela, il padrino, l'abuela. Dans ma famille, de toute façon, de mère en fille, on appelle sa grand-mère abuela. L'énorme commode en chêne massif abrite 10 tiroirs. 3 rangées de 3, pas parfaitement alignées, et un petit rose en dessous, seul. Ma fascination pour l'interdit n'a pas diminué avec les années. J'ai l'impression que je vais mettre ma main dans le feu. Je guette le 10e tiroir, le plus petit, celui qui n'a rien à faire là, le plus mystérieux. Ma main perd ses moyens, s'agrippe à sa clé. J'ai le vertige de savoir ce que je vais découvrir. Je l'ouvre lentement, savourant chaque seconde, avant que le voile ne soit définitivement levé. Ce tiroir est bien rempli. Je le sens du bout de mes doigts moites et tremblants. Du collier de macaroni au cendrier en pâte à sel, mes plus grandes œuvres s'y trouvent. Elle a gardé absolument tout ce que j'ai confectionné pour elle. Un festival d'horreur conservé tel des trésors. Les souvenirs ressurgissent. Je m'éloigne et fais les 100 pas, comme si je n'étais pas encore prête à entamer le grand voyage. Le tiroir rose en dira peut-être assez pour le moment. J'en sors une photo de mes cousins et moi, devant le mobilhome que louaient papy et l'abuela chaque été au camping de Narbonne-Plage. Nos sourires coquins et la joie de vivre qui émane de nos visages rafraîchissent le papier délavé. Nous étions heureux. Dormir tête bêche, assise dans le lit des grands-parents, avec eux, bien sûr, ne nous posait aucun problème. Au contraire, quand l'un de nous était trop grand et devait passer au lit de camp pour laisser sa place à un plus jeune, c'était le drame. L'abuela et papy étaient toute notre vie. Toute la mienne, surtout. Je me sentais à l'abri auprès d'eux lorsque j'étais enfant. J'espère qu'à mon tour, j'ai réussi à leur procurer cette sensation quand les années les ont fragilisés. L'abuela a été le ciment de notre famille. Certains diraient que nous couler tous ensemble dans un bloc de béton au café de la Marseillette n'était pas un cadeau à nous faire. L'abuela, de toute façon, si elle a décidé que quelque chose est bon pour toi, tu n'as aucune marge de manœuvre, autant se faire une raison. Je reluque la commode du coin de l'œil, j'aperçois une enveloppe au fond du tiroir rose, je reconnais l'écriture appliquée de ma grand-mère. Et s'il y en avait d'autres, je commence à comprendre. Il va falloir y aller maintenant, attaquer par le premier tiroir, quitte à ne plus lâcher jusqu'au petit matin. J'ai retourné le vinyle de Morricone, je me suis assise devant la commode au tiroir de couleur. À nous deux maintenant, Abuela. Surprends-moi encore. Para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras.
Je te confie ma médaille de baptême, Carigno. Elle a été mon seul compagnon de valeur du voyage. Regarde, ma médaille est à l'effigie de Saint Christophe, le patron des voyageurs. C'est drôle, car l'exil était mon premier pas hors d'Espagne et la France ma dernière destination. Tu parles d'une globe-trotteuse. La semaine qui a précédé notre départ, ma mère a cousu une minuscule poche à l'intérieur de chacune de nos culottes. Toi, Rita, tu dormiras avec ta médaille autour du cou ou autour de ton poignet. Et tous les matins, tu la rangeras dans la poche de ta culotte du jour. Elle sera toujours avec toi et personne ne pourra te la voler. Tu la porteras à nouveau sans crainte dès que les Républicains auront gagné. Sans crainte de quoi ? Je n'ai pas eu le temps de poser la question. Maman savait bien que je n'avais jamais eu peur de rien. Je tenais ça de mes parents d'ailleurs. Et monter dans un train pour la France, ce n'était pas plus insensé que se faufiler dans les bois à la nuit tombée pour que les adultes organisent la résistance. Pendant ce temps, au lieu de jouer aux cow-boys et aux indiens, nous, les enfants, on jouait aux franquistes et aux républicains. Tous voulaient être communistes, anarchistes ou socialistes, parce qu'ils gagnaient toujours à la fin. Oui, les républicains, c'était ceux-là. Tous les courants de la gauche réunis contre Franco dans une entente toute relative vers un même dessein. Mes parents s'aimaient autant qu'ils aimaient leur parti et leur patrie. Ils en revendiquaient la langue, l'art de vivre, les coutumes, mais aussi la combativité, la radicalité frôlant la folie et le courage. Personne n'aurait pu les en déposséder. Ma mère répétait à l'envi qu'on est maître de son destin. Elle cuisinait ce leitmotiv à toutes les sauces. Cette phrase pouvait clore une discussion agitée, laissant l'auditoire pantois, comme réveiller l'ambiance d'une tablée en manque de sujet de conversation. Il faut dire qu'elle y mettait toujours le ton à son fameux « on est maître de son destin ». Et grâce à ça, on se sentait invincible, mes sœurs et moi. Depuis plusieurs semaines, l'invulnérabilité du clan semblait ébranlée. Papa et maman ne faisaient plus un pas dehors sans se retourner. Nous avons déménagé chez Angelita et Jaime, de vieux amis à Barcelone. Mes parents ne travaillaient plus, ne sortaient presque plus, mais passaient tout leur temps à écrire et à organiser des réunions. Plusieurs fois par jour, des gosses des rues déposaient des documents et en récupéraient d'autres contre une pièce ou deux. Mes sœurs et moi, nous n'étions plus scolarisés. Certains enfants avaient été enlevés et envoyés dans le quartier de la Honte à Alicante, dans des camps d'endoctrinement où on broyait leur cerveau pour en reconstruire un qui serait voué à servir le guide, plutôt mourir. Un soir, tandis que nous rentrions du défilé d'El Día de los Reyes, les poches bourrées de bonbons,
Papa a allumé la radio après avoir poussé la porte de la maison, comme à son habitude. La voix dans le poste a parlé d'un projet, d'un massacre, de sang, de Barcelone. Et papa a dit qu'il était temps de nous mettre à l'abri. Selon lui, nous avions moins de 3 semaines pour agir. Il ne fallait pas nous inquiéter. Nous rentrerions dès que papa et maman auraient fait tomber le régime de Franco. Nous partions pour la France, nous ne serions pas loin. Et là-bas, il n'y avait ni bombardement, ni dictateur. Nous serions bien. Angelita et Jaime seraient avec nous tout voyage et nous amèneraient jusque chez le tio Pepe, qui vivait depuis 20 ans dans la ville de Narbonne, près de la mer. Nous n'avions jamais entendu parler du tio Pepe ni de Narbonne, jamais entendu parler de la France, ni entendu parler français, jamais quitté notre pays. Et tous ces jamais ne m'effrayaient pas, tant mes parents, même dans l'urgence, avaient pris soin d'embellir le scénario qui nous attendait. Mieux vaut croire au Père Noël et souffrir d'apprendre son inexistence que de ne pas goûter au plaisir de la rêverie infinie qu'il engendre, non ? Là, c'était un peu la même chose. Un mensonge aimant, protecteur, pour que nous puissions tenir au moins jusqu'à l'arrivée à Narbonne. Les mines défaites de mes parents auraient dû nous mettre la puce à l'oreille sur le quai de la gare. Leur tête était mise à prix dans tout le pays et au-delà. Condamnés, ils avaient décidé de mettre fin à leur jour ensemble. Dieu seul sait si d'autres ont connu un tel amour. Avec mes sœurs, on s'est débrouillé comme on a pu. Ta grand-tante Léonore étant la plus âgée, c'est elle qui a décadenassé la valise et trouvé la lettre de papa et maman en arrivant à Narbonne. À sa lecture, on jaillit au visage de Léonore des torrents de souvenirs qui prenaient tout leur sens. Je n'oublierai jamais son regard. J'ai pu y lire tour à tour la rage de ma mère et l'impénétrabilité de mon père. Elle a gardé le secret jusqu'à ce que Carmen soit en âge de comprendre. Enfin, jusqu'à ce qu'elle juge que Carmen et moi soyons en âge de comprendre. C'est maintenant, en te le racontant, que je mesure à quel point ma sœur a été solide. Elle était si dure avec nous, et moi si enfermée dans ma fureur adolescente, que je lui en ai voulu souvent, et c'était injuste. Léonore avait 6 ans de plus que moi, Carmen 4 de moins, moi j'avais 10 ans. Oui, c'est ça, nous avions 6, 10 et 16 ans, le jour où nous avons embrassé nos parents pour la dernière fois.
Le train n'est pas allé jusqu'à Narbonne. Nous avons été débarqués à Gérone et nous avons dû finir à pied. Il fallait laisser nos sièges aux milices qui partaient en rafle dans les villages frontaliers. Les républicains actifs qui essayaient de quitter le territoire étaient traqués, monnayés, puis faits prisonniers. Et quand il fallait faire de la place dans les geôles, je ne comprenais pas tout ça à l'époque. Dès que Léonore percevait l'inquiétude de Carmen et la mienne, elle nous rappelait que tout cela était provisoire et que les méchants franquistes seraient bientôt repoussés par les gentils républicains. Et comme ce sont toujours les gentils qui gagnent à la fin, hop, équation résolue. Tranquillo, Nenias. Bonne nuit. Bon, ben, si c'est bientôt fini, alors, bonne nuit. C'est si facile de partir quand on ignore que c'est peut-être pour toujours. Quelle sensation de liberté au départ, quelle euphorie pour Carmen et moi. Le soleil donnait des allures estivales à ce mois de février. Nous partions à la découverte d'un nouveau monde et des centaines d'enfants de notre âge couraient à travers les Pyrénées avec nous. Pour Léonore, c'était différent, bien sûr. Elle était concentrée. Elle savait ce qui nous attendait ou le présageait. Les autres aussi. Le contraste entre les explications de mes parents et les visages fardés d'inquiétude qui composaient le cortège commençait d'ailleurs à me poser question. À mi-chemin, l'excitation était largement redescendue pour Carmen et moi. Le froid se faisait plus présent, la fatigue pesante, et certains souliers n'avaient plus de semelles. Le râle de la procession, bourdonnement composé de pleurs de bébés et de plaintes contenues, retentissait en écho sur tous les versants de la montagne. Au boulou, on sépara les hommes, des femmes et enfants. Le départ de Jaime fut terrible. Angelita portait leur enfant et hurlait sa détresse. Nous la serrions de toutes nos forces pour essayer de la calmer. En vain. Carmen pleurait aussi sans trop savoir pourquoi. Autour de nous, les familles étaient déchirées, se disloquaient en larmes, oubliant la morsure du vent tant celle des cœurs était violente. Nous avons tous eu droit à une tournée de piqûres à la frontière. Personne n'a demandé de quoi il s'agissait. Trop anesthésiés désormais par le froid et la faim, nous n'avons jamais su. Mes sœurs et moi étions loin d'être les plus mal lotis. Maman avait pris soin de mettre de grosses laines dans notre valise et une paire de chaussures neuves pour chacune d'entre nous. Mais l'appréhension à l'approche de l'inconnu grandissait en nous, surtout maintenant que le seul homme du groupe n'était plus là. Puisque nous rentrerions tous bientôt, pourquoi tant de peur et de tristesse s'emparaient de notre troupe ? Je devrais parler de troupeau, tant les autorités, françaises comme espagnoles, nous traitaient comme du bétail. À deux reprises, sur les 150 km parcourus, des convois de la Croix-Rouge nous ont apporté de l'eau et quelques vivres. Au boulot, une mamie donna une petite boîte de mantecados et de dedos de prura à Carmen. Ils ressemblaient étrangement à ceux de la abuela, la mienne, partie quelques mois plus tôt d'un cancer de l'estomac. Chaque fois qu'on demandait à ma mère de quoi la abuela s'était éteinte, elle répondait avec une colère contenue « Ma mère n'a pas digéré que son peuple laisse une ordure prendre possession de sa terre. » C'est tout. Cette parade en effrayait plus d'un, car personne ne soupçonnait que l'on puisse mourir de ça. C'était ses convictions qui l'avaient tué, notre vieille, pas quelque chose qui gagne encore et encore du terrain, puis gagne tout court, malgré le combat, comme ce mal parido de Caudillo. L'éclat de la boîte de biscuits se reflétait dans les yeux réjouis de ma petite sœur. C'était si doux à voir au milieu de ce désastre. J'échangeais avec Léonore un sourire complice, le premier et le dernier du périple. Elle ne voulait pas que je perçoive sa peur. Je ne voulais pas me soumettre à son autorité. Après tout, elle n'était pas ma mère. Carmen refusa dans un premier temps de partager. C'était son cadeau, et fin ou pas fin, il ne fallait pas y compter. Elle-même ne goûta pas tout de suite son trésor, malgré son petit ventre qui criait famine. Nous étions partis depuis 2 jours, alors les bocadillos de maman étaient loin, et les biscuits de la Croix-Rouge aussi. Mais en 150 kilomètres, nous avions grandi de plusieurs années, et Carmen vint d'elle-même distribuer équitablement son butin. Léonore et moi avons insisté pour qu'elle en garde un peu plus pour elle, prétextant qu'elle était en pleine croissance, comme le disait maman, et que de toute façon, nous n'avions pas faim. Elle s'y opposa. 2 mois plus tôt, j'aurais écrabouillé sans vergogne la main de ma petite sœur pour les lui piquer. Et elle aurait fait preuve d'une incroyable inventivité pour les mettre à l'abri de ma gourmandise. Mais là, évidemment, nous étions une centaine dans notre équipée. Pourtant, devant nous, une marée humaine avançait, telle des milliers de fourmis, courageuses et vulnérables, handicapées par le froid glacial et le poids des bagages, mais d'une volonté sans pareille. Nous sommes arrivés de nuit au camp d'Argelès. Un froid de connard cette nuit-là. Ah non, pardon, de canard. Je ne voyais pas trop ce qui pouvait valoir la dénomination de camp à cet immense enclos sur la plage, délimité par des barbelés. Je crois que j'imaginais un camping géant depuis qu'à Cerbère, le nom de camp avait été prononcé. Mais cette vaste étendue de sable ressemblait plutôt à un mouroir. Une cinquantaine de cahutes éparses, aussi brinque-ballantes que la maison de paille du fainéant petit cochon, puis quelques braseros et des fantômes agglutinés autour. Presque rien, juste des corps laminés par le vent et les crampes d'estomac, des âmes lamentées par des souvenirs et le renoncement. 4 infirmières nous ont rejoints avec des tas de baluchons en toile de jute sur les bras. Elles étaient douces et enveloppantes, disponibles malgré l'afflux massif. Que c'était chaud cette bonté gratuite après tout un chemin à être traité comme des vaincus. Peut-être que la vocation de Léonore s'est forgée à ce moment-là. Chaque famille a reçu 2 couvertures, un pain et un petit jerrican d'eau quasiment gelé. Elles nous ont installés dans un baraquement où gisait déjà une bonne 30aine d'occupants à bout de force comme nous. Elles étaient gentilles, ces Françaises. Nous le sentions, même sans comprendre un mot de ce qu'elles nous disaient. Nous avons fait notre nid près d'une femme enceinte, encore plus grosse qu'Angelita. Elles se sont allongées, l'une contre l'autre, et moi contre Angelita, pour caresser son ventre et rassurer le petit. On aurait dit 2 œufs de dinosaures pondus sur un nid de chiffon. Léonore a coupé le pain en quatre et personne n'a pensé à faire des réserves au cas où. Carmen s'est endormie en mangeant le sien. Un toit, même prêt à s'envoler, même avec les odeurs de cette masse salie par son voyage, ça l'avait rassurée, la petite. Je remarquais, soudain, la petitesse de Carmen. 72 heures avaient suffi à donner une allure maladive à sa silhouette déjà frêle. Ma petite sœur avait à peine 6 ans, et un hamac obscur se dessinait sous chacun de ses yeux. Elle avait des cernes. C'était inacceptable. Je continuais à parcourir la pièce du regard, découvrant des visages émaciés, maladroitement posés sur des corps décharnés. Depuis quand était-il là? Combien de chemins parcourus pour arriver ici? Et pourquoi? Était-ce vraiment être à l'abri que de se retrouver loin des siens et de sa terre sur un tapis de sable gelé? Je sentais ma colère monter. Mon courroux enflait contre mes parents, contre Léonore, contre je ne savais quoi. Mais une boule de haine grossissait à vue d'œil dans mon ventre. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que non, ce n'était pas rien. Non, ce n'était pas temporaire. Non, j'ai compris que toute ma vie serait écrite à l'encre rouge de ces quelques jours.
La Croix-Rouge a appelé le TIOPP. Pour sortir du camp, il fallait qu'un résident français confirme qu'il pouvait accueillir le ou les réfugiés concernés. Il s'y est engagé et nous avons pris un train pour Narbonne. Je regrette aujourd'hui, j'aurais dû rester. Quand nous avons quitté le camp, j'ai eu la sensation d'abandonner tous ceux qui en étaient prisonniers. Si j'étais restée, j'aurais pu aider, participer, soigner. J'avais choisi de suivre les directives de papa et maman, de sauver ma peau, de me soumettre. La honte m'a habité tout le voyage, venant chasser la joie qui se glissait dans mon cœur à l'idée de retrouver un vrai toi. Cette désagréable sensation, cette culpabilité me visite encore en rêve, parfois, et me hante toute la journée suivante. Andrelita resta dans le camp d'Argelès. Léonore lui confia le numéro du TIOPP parce que, comme disait ma mère, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'elle avait raison, ma mère? À l'arrêt du train à Narbonne, mes sœurs et moi n'étions pas seules. Un bon quart des voyageurs descendaient là, c'était réconfortant. Mais la plupart des gens s'écartaient sur notre passage. On nous regardait comme des bêtes curieuses ou bien des opportunistes, je n'en sais rien. Je comprends, un peu. Ce doit être effrayant d'apprendre que 400 000 bouches à nourrir débarquent sur ton sol. Je ne retins que la sonorité de deux phrases que je ne compris pas sur le coup, mais dont la récurrence dans la bouche des Français me marqua les premiers temps. Tantôt hurlés, tantôt à demi-voix. Espagnols de merde, ils sont sales, ils puent. Autant te dire que nous avons vite su traduire ces mots. Et vite compris que la vie de Patachon au bord de la mer que nous avaient vendue nos parents, ce ne serait pas pour tout de suite. Mais enfin, il restait le tio Pépé. Pourvu qu'il soit comme ses deux frères, me disais-je, on pourrait bien rigoler. Sauf que le tio Pépé était français désormais, plus ou moins notable, et qu'il comptait bien se passer de la mauvaise publicité d'être vu avec nous, ou pire encore, de nous héberger. Il nous conduisit dans ce qu'on appelle le quartier gitan à Narbonne, tu sais, en face du marché aux fripes. Il siffla, en bas d'un immeuble délabré, le plus haut du voisinage, et une madone quadragénaire apparut à la fenêtre du cinquième étage. Il n'eut pas à prononcer un mot, la femme cria « Aber si me queda algo !»